Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le chef de l'État devrait s'abstenir de nommer au gouvernement et dans les entreprises publiques tous ceux qui ont été élus députés nationaux. Ces propos sont ceux de quelques organisations de la société civile parlementaire qui estiment que cette pratique de nommer des élus qui laissent leur siège à leurs proches installe progressivement une oligarchie ou une kleptocratie en RDC. Que pensez-vous de la déclaration de ces organisations de la société civile parlementaire? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Maître Jean-Paul Moulianga. Il est coordonnateur du bureau de liaison de la CENCO avec le Parlement. Bonsoir Maître Jean-Paul Moulianga. Maître Jean-Paul Moulianga, est-ce que vous êtes là? Apparemment, il n'est pas encore là. Ici au studio, nous avons Jean-Michel Kalonji, le cadre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de la dynamique 2020 Tshisekedi. Bonsoir Jean-Michel Kalonji.
Bonsoir.
Et aussi Joseph Kongolo, que nous retrouvons après plusieurs années, analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Bonsoir Joseph Kongolo.
Bonsoir et bonsoir Monsieur Kalonji et aussi à l'autre co-débatteur qui n'est pas avec nous. J'ai dit en même temps bonsoir aussi à tous les auditeurs de la radio.
Merci une fois de plus, bienvenue dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le chef de l'État devrait s'abstenir de nommer au gouvernement et dans les entreprises publiques tous ceux qui ont été élus députés nationaux afin de leur permettre de travailler un contrôle parlementaire efficace. C'est ce qu'ont revendiqué quelques organisations de la société civile parlementaire et qui estiment que cette pratique de nommer des élus qui laissent leur siège à leurs proches installe progressivement une oligarchie et une kleptocratie en RDC. On va écouter Maître Jean-Paul Moulianga, qui est membre de cette société civile, interrogé ici par Michel Kifindangoy.
Nous avons l'impression que la malice et la ruse politicienne sont toujours de mise. Le président de la République, dans son adresse à la nation lors de son investiture, il avait rassuré les Congolais de tous bords qu'il va s'atteler à la correction des erreurs du passé. Mais connaissant nos acteurs politiques, avec tant leur malice et ruse politicienne, beaucoup de ceux qu'on a vus là élus, certains élus à la fois au niveau national et au niveau des provinciales, nous savons que c'est une stratégie. Ils vont tout faire pour se faire nommer soit dans le gouvernement ou se faire nommer comme mandataire. Et comme ça, ils vont libérer leur place au bénéfice de leurs cousins, membres des familles proches, donc épouses, enfants. Et là, ça ne nous rassure pas qu'on aura la qualité de la représentation. Si du moins les chefs de l'État, comme la majorité, c'est dans sa famille politique, pouvait donner un mot d'ordre pour que ces élus-là demeurent au sein de l'Assemblée nationale, afin que là, ils puissent s'atteler à leur travail constitutionnel, de voter des lois, de contrôler le gouvernement effectivement. On pourrait espérer quelque chose. Finalement, nous risquons de revivre les mêmes tares qu'on a décliées par le passé, avec la naissance d'une oligarchie, une kleptocratie.
Oui, Maître Jean-Paul Moulianga, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Bonsoir, je rappelle que vous êtes coordonnateur du bureau des liaisons de la CENCO avec le Parlement. On vous a suivi, vous demandez au chef de l'État de s'abstenir de nommer au gouvernement et dans les entreprises publiques tous ceux qui ont été élus députés nationaux, puisque vous redoutez, n'est-ce pas, l'installation progressive d'une oligarchie ou d'une kleptocratie. Maître Jean-Paul Moulianga, au-delà de cette crainte qui peut être fondée, vous ne pensez pas que l'on puisse, n'est-ce pas, vous reprocher d'encourager une certaine violation des droits inaliénables et reconnus à tout citoyen congolais de pouvoir participer à la gestion de la chose publique dans son pays?
Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Si on est arrivé à ce constat, c'est sur base de nous travaillons avec le terrain, dont les enquêtes, les recherches et les évaluations, on prouvait que à chaque législature, depuis 2006, il y a le fossé qui continue de se creuser entre les élus, donc les élus nationaux, provinciaux et tous les autres, avec leurs électeurs. notamment la qualité de la représentation ne fait qu'aller au rabais. Et ça a des implications sur le contrôle parlementaire. N'oublions pas que, à part la mission constitutionnelle de voter des lois, les parlementaires, les représentants du peuple ont la mission aussi de contrôler les gestionnaires. Et l'expérience, je vous ai dit, avec les législatures qui viennent de passer dans quelques pays, dont les trois législatures, le contrôle là, beaucoup laisse à désirer, à telle enseigne que les désidérata de la population, il sera difficile de répondre aux désidérata de la population, donc en termes d'attente pour l'amélioration des conditions de vie des populations avec la même mentalité. Et n'oublions pas aussi que le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire. Il n'est pas obligé de nommer dans les parlements, toujours au sein du Parlement, il peut nommer en dehors du Parlement. Et c'est dans les soucis de faire rencontrer l'action parlementaire avec les intérêts de la population. Ils sont élus pour le bien de la population. Mais avec les expériences que je viens de vous donner là, passées, on constate que cette pratique est aux antipodes des intérêts légitimes des populations.
Voilà. Vous redoutez, n'est-ce pas, que les... Allô, maître Jean-Paul Omulyanga, vous redoutez que avec cette pratique-là, que les contrôles ne puissent pas se faire comme il se doit. Et vous pensez que lorsqu'on reproche au Parlement de ne pas jouer son rôle, de ne pas bien jouer ce rôle-là, de contrôler les institutions, vous pensez que cela est lié uniquement au fait que certains parlementaires, certains députés nationaux sont nommés au sein du gouvernement?
Non, on ne peut pas dire que c'est lié à cela. Il y a plusieurs autres facteurs, mais celui-là aussi, quand même, il est vraiment déterminant. Il est vraiment déterminant. Et on n'a pas parlé que du gouvernement. On a aussi parlé des entreprises publiques, par exemple, des établissements publics. Et les députés, son rôle n'est pas de gérer. Les députés, son rôle, c'est de représenter la population et de défendre cette population par les différents plaidoyers qu'il va mener. Mais quand ils vont passer leur temps, en même temps, vous aurez des députés qui sont mandataires actifs ou passifs dans les entreprises, dans les commissions, dans les conseils d'administration. Et là, vous voyez que ils sont jugés passifs. Comment est-ce qu'ils vont encore bien faire les contrôles de ces mêmes établissements? Donc, voilà. C'est pourquoi on en appelle au chef de l'État, qui est la ministre suprême, et surtout que, comme on a dit que la majorité des représentants du peuple viennent de sa famille politique, il peut cette fois-ci changer de fusil d'épaule pour voir les résultats qui seront démis.
Oui, parce
que... Et on espère capable, d'après les études, les évaluations que nous faisons, si les contrôles fonctionnaient comme il se doit, peut-être pas 100%, mais au-dessus de 50%, la population pourrait espérer avoir quelque chose. Parce que les intérêts politiciens là de ces élus ou de ces gouvernants ne rencontrent pas ceux des populations. Le souci ici, c'est de faire rencontrer, d'essayer de faire rencontrer pour une fois les intérêts de la population et avec ceux des... Voilà.
Voilà, vous parlez d'oligarchie, de kleptocratie. C'est des régimes politiques qu'on peut installer, qui peuvent s'installer progressivement, sans nécessairement recourir, n'est-ce pas, aux membres d'une famille biologique donnée.
Oui, vous avez raison, c'est pas la famille biologique. On a parlé des amis, des affidés pour des politiques, des proches. Voilà, des gens qui sont dans l'entourage immédiat, sans tenir compte nécessairement de la compétence ou l'engagement de ces derniers pour l'amélioration des conditions de vie de la population, et même de la fonction parlementaire. Donc voilà, c'est juste combler, mettre les siens. Et les pays comptent beaucoup de compétences, et même ces partis politiques-là, ou ces regroupements politiques, je pense qu'il y a des militants et d'autres cadres qui peuvent bien remplir, qui peuvent jouer le rôle des députés, des sénateurs, voilà, des conseillers locaux, sans pour autant être membres ou très proches membres des familles, biologiques, des leaders de ces mêmes regroupements politiques.
Oui, votre élite, vous ne pensez pas pour qu'elle soit efficace, est-ce que elle ne devrait pas être menée au niveau légal, hein, parce que on sait que les pratiques que vous semblez dénoncer aujourd'hui, c'est des pratiques qui ne sont pas, n'est-ce pas, consacrées par la loi, mais elles ne sont pas non plus interdites par la loi. Et or, il est dit que ce qui n'est pas interdit est permis. Vous ne pensez pas qu'il faille d'abord aller au Parlement, recommander, n'est-ce pas, aux législateurs de pouvoir insérer ce genre de dispositions dans différentes lois et les faire de façon formelle. Commencez d'abord par là, avant d'être dans les médias.
Monsieur, notre travail, c'est un travail qui s'est fait au Parlement, les jours. Nous avons des moniteurs qui suivent les travaux parlementaires et qui sont là pour ça. Donc, et nous avons des rapports avec certaines commissions du Parlement pour les plaidoyers parlementaires. C'est le travail au quotidien. Donc, on ne peut pas se limiter à faire les plaidoyers pour les réformes législatives, les réformes légales, sans mener aussi des actions, des mobilisations à côté, et notamment en passant par les médias. Ça ne se limite pas seulement aux médias. Si votre média nous a référé, c'est parce que nous faisons un travail de terrain, un travail qui est reconnu par plusieurs acteurs. Donc, les deux sont possibles. Les deux seront menés au même moment. Quoi que ça ne sera pas facile. C'est comme si vous allez demander aujourd'hui aux élus de revoir, de prendre des décisions pour revoir à la baisse leurs émoluments dans le cadre de la réduction, par exemple, du train de vie de l'État. Nous voyons qu'ils prennent des lois souvent, des lois qui les arrangent, des lois taillées sur mesure, et des lois taillées sur mesure au détriment de la population. Voilà.
Merci Jean-Michel Kalonji, vous êtes avec nous ici au studio, cadre de l'Union Sacrée de la Nation et coordonnateur de la dynamique 2020 Tshisekedi. Et que pensez-vous de la déclaration de ces organisations de la société civile parlementaire?
Ces organisations peuvent avoir raison et peuvent avoir tort au même moment, parce que savoir que c'est un ticket que l'on élit aux élections. Donc le candidat député est accompagné des deux suppléants. Donc pendant la campagne, ce sont ces suppléants qui battent campagne avec le candidat. Ce qui sous-entend que quand l'élu est indisponible pour une raison ou une autre, il est remplacé par l'un des suppléants en vie ou disponible pour répondre à cette obligation parlementaire. Mais au même moment, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? C'est que les partis politiques ou les regroupements sont représentés par leurs leaders qui conçoivent une pensée de gestion. Donc quand ces personnes qui sont élus et que du moment où ils peuvent être appelés à d'autres fonctions, ils peuvent laisser normal à leurs suppléants de gérer, de rester parlementaire. Mais ce qu'il faudrait le plus, c'est que le contrôle parlementaire doit être une notion et l'intégrité de la pensée du politique. C'est ça ce qu'il faudrait, sur quoi nous devons nous baser. Parce que nous avons vu aujourd'hui que ça soit au niveau provincial, que ça soit au niveau national, beaucoup des contrôles parlementaires se sont faits et après il n'y a rien eu. Ce n'est pas tout simplement parce que les leaders n'étaient pas là ou ils étaient ministres, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu une volonté d'arriver à la fin. Moi je pense que ce que nous devons d'abord mettre en place, c'est mettre des obligations réelles envers nos élus. Le devoir de redevabilité. Aujourd'hui, quand un élu devient parlementaire, il ne rend de compte à personne. C'est ça ce que nous devons travailler. Nous devons avoir régulièrement un contrôle sur nos élus. En ce moment-là, ils sont responsables de la politique.
Lorsque vous dites nous, vous faites allusion à qui? Au peuple?
Je parle au nom du peuple parce que je peux être membre de la famille politique au pouvoir, mais je suis d'abord un citoyen congolais. Donc moi aussi j'ai des revendications. Moi aussi je peux être contre une décision ou une autre qui peut être prise, même si je suis de cette famille politique-là. Il faudrait qu'aujourd'hui, on puisse se dire des vérités en face. Moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, je suis déçu par la gestion de la ville de Kinshasa. Nous sommes dans une ville la plus sale possible. Aujourd'hui, il n'y a aucune route, surtout dans la commune d'Engaliema, qui est viable. Aujourd'hui, tu passes des heures et des heures. Et vous pouvez vous rendre compte que nous avons un des interlocuteurs qui n'est pas avec nous dans l'émission parce qu'il est dans le trafic. Tout simplement parce que les embouteillages sont au-delà. Mais est-ce que c'est pour autant que les députés provinciaux ne pouvaient pas sanctionner les dirigeants de la ville? C'est là la question. Donc, que ce soit les députés qui soient nommés ministres, qui soient appelés à d'autres fonctions, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de l'intégrité et de nos dirigeants. Est-ce que à un moment, on prend la décision pour dire que, bien que c'est ma famille politique, mais je dois au moins lever le ton pour sanctionner celui qui est là en place comme dirigeant?
Mettez-vous à la place de cette personne qui estime qu'elle doit prendre l'initiative, n'est-ce pas, de sanctionner parce que la personne n'a pas bien joué son rôle. Une personne qui a été, n'est-ce pas, appelée au Parlement, à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale, parce que remplaçant, n'est-ce pas, quelqu'un qui a été nommé au gouvernement et qui serait même proche de cette personne-là. La personne, le député national ou provincial, constate qu'effectivement, le ministre ne joue pas son rôle. Est-ce que vous, à sa place, vous prendrez l'initiative de sanctionner ce ministre-là quand vous savez très très bien que si vous êtes parlementaire, c'est parce que ce ministre-là a été non seulement nommé au gouvernement, mais en amont, il vous avait choisi comme ce premier suppléant.
Voilà là où je dis nous devons être sincères dans nos engagements vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du peuple congolais. Quand vous êtes en faute, vous êtes en faute. Et que moi, quand je pense que là vous n'êtes plus dans le respect de la loi ou de la gestion du pays, je dois être en mesure de vous sanctionner. Je dois être en mesure de jouer mon rôle comme parlementaire. Je ne peux pas être payé par l'argent de l'État congolais. L'État congolais, c'est le peuple congolais. Et dire que je ne peux pas sanctionner le ministre parce que le ministre est de mon obédience ou de mon parti ou de mon regroupement politique. Ça, c'est un fait. Maintenant, le problème se pose sur les liens de filiation, comme vous pouvez le dire, que généralement le candidat prend son épouse ou son fils ou un membre de famille tierce. Si ces personnes sont compétentes pour être députées, si ces personnes ont battu campagne à côté de lui, oui, ils peuvent être ses suppléants. Mais maintenant, quand il s'agit de l'État, je pense que nous devons être assez responsables pour pouvoir sanctionner. C'est pour cela, moi...
Au-delà de la compétence, il n'y a pas un problème d'éthique qui se poserait lorsque un papa est au départ parlementaire, il est nommé au gouvernement ou dans les entreprises publiques, il laisse son siège à son fils ou à son épouse. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique au-delà de la compétence que la personne peut avoir?
Ce qui n'est pas interdit par la loi est accepté. Donc, s'il y avait dans la loi électorale cette interdiction, je ne serais pas en cause si je choisissais X, Y personnes.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous qui êtes au pouvoir, donc la majorité, avec l'Union Sacrée, qui entretient ce genre de pratiques? Parce qu'on se rappelle que les G13, hein, les groupes de 13 personnalités, avaient fait une proposition lorsqu'on était en train de réviser la loi, l'actuelle loi électorale. Et parmi les dispositions pertinentes, n'est-ce pas, de leur proposition, il y avait cette recommandation qui avait été faite au Parlement de pouvoir insérer dans la nouvelle loi la disposition qui interdit formellement à des personnes de pouvoir choisir leurs proches et les membres de leur famille comme suppléants pour ne pas, n'est-ce pas, prendre en otage les institutions politiques du pays Mais il s'est fait que une proposition qui avait été applaudie au départ a été rejetée par la commission PAJ, qui était contrôlée par l'Union Sacrée. Et lorsque la commission PAJ est venue faire son rapport au Parlement, à la plénière avait applaudi ça. Et donc on reproche à l'Union Sacrée, n'est-ce pas, d'entretenir ce genre de pratiques, même si dans les déclarations, elle a tendance à dénoncer ces pratiques-là.
Ce n'est pas l'Union Sacrée. Nous venons de vivre plus de 3 cycles électoraux. Donc la loi électorale, c'est depuis 2006. Ce n'est pas l'Union Sacrée. En plus de cela,
nous parlons de la révision qui a été faite dans la législative passée.
Oui, dans cette révision,
l'Union Sacrée était majoritaire.
Dans cette révision, tout politique part de son expérience de la vie politique et part de l'intégrité de l'homme politique. J'insiste sur l'intégrité de l'homme politique. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que leader, j'ai aujourd'hui des personnes dans mon parti politique ou dans ma plateforme politique qui viennent dans mon parti pour, au fait, les postes et non la vision que je partage. Ça pose un problème. Vous avez vu, je vous donne l'expérience de Modeste Bahati. En 2018, il a l'AFDCA, qui est son parti et regroupement politique, parce qu'il a le problème du seuil à atteindre. Ils vont aux élections, ils sont élus. On arrive au Parlement, il n'est pas d'accord avec sa famille politique, à l'époque, qui est
le FCC.
On le choisit pas comme candidat président du Sénat. Il dit non, sa famille politique, où lui était le leader, le président, le chasse parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Donc le monsieur s'est dit que si c'était des personnes qui me sont beaucoup plus proches, ils allaient me rester fidèles. Ça, c'est une expérience. Nous avons aujourd'hui, j'ai été très déçu. Malheureusement, c'est le même regroupement politique. On a eu Lemba, qui était député politique de l'AFDC. Et vous savez la raison pour laquelle il a quitté l'AFDC. Il dit, président Wana Akabakate. Donc, il est dans un regroupement où il a été élu, mais il pense que sa loyauté au regroupement devait être assise sur le plan pécuniaire. Donc, au vu de toutes ces réalités, voilà pourquoi certaines personnes, bien que je n'appuie pas cette idée, se retrouvent à favoriser des personnes avec qui ils pensent que la loyauté serait beaucoup plus ténue que des personnes tierces. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous devons travailler sur le changement de l'homme congolais, sur l'éducation de l'intégrité, des valeurs du politique congolais. Et je pense, aujourd'hui, nous devons tuer dans la loi électorale les regroupements politiques. Parce que les gens vont dans des regroupements politiques sans avoir la même vision que le leader ou le parti politique, mais vont parce que ce regroupement va lui permettre d'atteindre le seuil, d'atteindre le quotient électoral.
Merci.
Dès qu'ils sont élus, ils quittent. Je dois terminer par ceci. Je voudrais que l'Union Sacrée ne reçoive pas les députés membres de l'ensemble de Moïse Katumbi qui ont commencé à quitter l'ensemble pour se rejoindre à l'Union Sacrée. Ce débauchage, pour moi, est malhonnête et on ne devrait pas continuer à appuyer ce genre de comportement en politique.
Merci. Malheureusement, on constate que l'homme politique congolais, il est dans des déclarations. Il veut une chose et ce contraire. Il déclare des choses, mais dans la pratique, il fait le contraire de ce qu'il a toujours dit. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Et c'est pourquoi il faut moraliser, comme vous l'avez dit,
moraliser la classe politique.
Merci.
Et aujourd'hui, nous devons changer cette classe politique en pensant autrement.
Merci, Joseph Kongolo, analyste politique, coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Comment vous analysez cette déclaration de ces organisations de la société civile parlementaire?
D'abord, je voudrais remercier cette société civile de cette déclaration. Je crois que quand on est dans un processus de refondation de l'État et dans un processus de développement d'un État, il y a des valeurs cardinales sur lesquelles se trouve fondée une démocratie. Et parmi ces valeurs, n'est-ce pas, qui sont le fondement et le socle solide d'une démocratie, se trouvent ces valeurs et en particulier nous avons ça, ce qui relève de l'éthique. Je crois que vous avez parlé, vous avez cité le mot. L'éthique est le fondement de la réussite de quelque chose. Ce sont des limites qu'on place, n'est-ce pas, dans l'exécution de certaines tâches. Et cette éthique, vous savez, il y a des nuances avec ce qu'on appelle la morale, parce que l'éthique est liée, n'est-ce pas, à une profession donnée. Voyez-vous ? Donc, ce qui est interdit pour les médecins ne l'est pas forcément pour les avocats. Donc, je pense que dans le processus de refondation de l'État et de la démocratie, il y a des valeurs cardinales sur lesquelles nous devons insister. Et parmi ces valeurs se trouve ce mal qui gangrène la République. C'est un mal. On ne peut pas. Effectivement, la crainte est celle de créer une oligarchie. C'est une crainte normale et logique. C'est de créer une oligarchie. Parce que il peut arriver, pour être élu, il faut avoir de l'argent. Et ceux qui ont de l'argent, ils mettent leurs enfants comme des suppléants. Demain, première génération, c'est-à-dire une première législature, une deuxième, une troisième, vous vous trouvez avec trois quarts d'acteurs politiques qui relèvent de quelques familles, donc qui constituent une sorte de caste politique. Donc il y a un mal profond en cela. Donc c'est un mal qui ronge la République, qui ronge la nation et qui ronge aussi, bien qu'il empêche la démocratie de se consolider. Donc de ce côté-là, je suis totalement d'accord avec ces déclarations. Mais attention, il y a des cas exceptionnels. Nous prenons un exemple très simple. Le président de la République a été fils, n'est-ce pas, d'un leader politique. Mais il a combattu à côté de son père. Voyez-vous, il a été dans la rue, il a combattu à côté de son père. Donc ça devient normal et logique que celui-là, n'est-ce pas, soit suppléant de son père, ou soit suppléant, ou quelque chose dans ce sens-là. Mais pour des gens qui n'ont jamais senti l'odeur d'une bombe lacrymogène, vous trouvez une dame qui est posée chez lui à la maison, dans un luxe insolent, et tout de suite, elle devient députée parce que son mari a été député, puis il s'est fait nommer, elle remplace son mari au Parlement, au nom du parti politique dans lequel il n'a jamais combattu. Ah non, là c'est immoral. Non, c'est pas immoral, c'est amoral. Alors en ce moment-là, nous n'acceptons pas. Voilà pourquoi nous acceptons ces déclarations, et personnellement, je l'ai dit, il y a des cas exceptionnels où on peut trouver et les enfants et les parents qui sont tous combattants engagés dans un parti politique. En ce moment-là, on peut les dispatcher comme ils l'ont dit. Mais quand ce sont des personnes qu'on n'a jamais vues dans un parti politique et tout de suite vous les voyez au pouvoir parce que il a été suppléant ou suppléante de son mari, il a été suppléant ou suppléante de son père ou de sa mère, en ce moment-là, il y a un mal qui ronge la République. Donc, sur le plan éthique, il y a quelque chose qui ne va pas.
Voilà. Au-delà de ce problème d'éthique, est-ce qu'on ne peut pas considérer cette démarche de ces ONG comme étant une démarche discriminatoire?
Elle n'est pas du tout discriminatoire. Je vais vous dire que dans chaque domaine, il y a des limites à la loi. Et généralement, ces limites à la loi nous introduisent dans ce qu'on appelle l'éthique, la morale. Voyez-vous? Donc c'est tout à fait logique et normal qu'ils craignent. Parce que ici, on n'est pas dans un cas, mais on est dans la généralité. Voyez-vous? Ils dénoncent quelque chose que l'on connaît tous, qui a même fait débat au Parlement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Parce que une bonne opinion a trouvé que c'était pas éthique, c'était pas normal pour une démocratie naissante qui doit grandir, qui est appelée à grandir. Et c'est alors qu'ils ont fait ces déclarations. Et moi, j'accepte ces déclarations. J'accepte ces déclarations. Je voudrais même aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut créer une dynamique, en principe, pour demander au président de la République, qui est le numéro un, l'inspirateur, n'est-ce pas, de l'idéologie de son régime et de sa politique, de pouvoir tenir compte de ça. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels qu'on peut relever, évidemment, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et en plus, il faut aussi faire cette sensibilisation, cette campagne, non seulement auprès des dirigeants, c'est-à-dire que le président de la République, parce que c'est lui qui inspire toute la philosophie du pouvoir pendant son régime. Voyez-vous, il peut prendre cela, non pas comme, forcément comme une loi, mais tout simplement comme une norme, n'est-ce pas, de gestion. Il le dit à ses membres du cabinet, par exemple du gouvernement, attention, dans vos cabinets, il ne faudra pas qu'on retrouve 3-4 personnes, n'est-ce pas, d'une même tribu. Ça se fait, et à un certain moment, d'ailleurs ça se disait du temps de Mobutu, mais à la fin de Mobutu, c'était des choses qui étaient entendues et vues aussi. Donc je pense...
Est-ce que vous pensez que c'est facile dans un contexte politique où la classe politique est habituée à ce genre de pratiques, hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? On a commencé à constater ça il y a longtemps, et oui. on se rappelle, hein?
Exactement.
Dans le gouvernement 1+4, le gouvernement de transition, il y avait un ministre qui, après avoir été suspendu à cause des actes répréhensifs qu'il avait posés, Et lorsqu'il est suspendu, il est sanctionné, il propose son épouse comme la personne qui va les remplacer au gouvernement.
Tout à fait.
Cela avait été toléré et apparemment on a pris goût et les gens se sont habitués à ça. Est-ce que ce n'est pas cette habitude, cette mauvaise habitude que les gens ont acquise qui fait que même lorsque le G13 a fait sa proposition, cela a été rejeté parce que les gens sont déjà habitués à ça. Est-ce que c'est facile d'aider la classe politique congolaise à pouvoir se départir de ce genre d'habitude?
Monsieur Guy Maté, quand on est dans la refondation d'un État, quand on est dans la redynamisation d'une démocratie, c'est en réalité un arrêt, un nouveau commencement. Ça veut dire, le président de la République lui-même l'a dit, que les mauvaises habitudes, il faut les changer. Voyez-vous? Donc c'est une contrainte qu'on doit imposer aux porteurs du pouvoir aujourd'hui pour que, dans le processus de nomination, qu'on puisse tenir compte de ça. C'est énorme. On ne peut pas refonder quand on revient dans les mêmes valeurs, dans les mêmes tares. Non. C'est-à-dire que aujourd'hui, le président est dans un processus de refondation, n'est-ce pas? Il devra, lui, montrer le chemin, commencer par donner des normes précises en matière de nomination et mettre aussi des garde-fous. Il ne faut pas seulement déclarer, mais il faut mettre des garde-fous pour vérifier.
Notamment des lois.
De lois, vous savez, dans l'éthique, tout n'est pas coulé sous forme de loi, n'est-ce pas? Tout n'est pas coulé sous forme de loi. Mais tout simplement, sanctionner des gens qui vont faire ce genre de choses, par exemple, en ce moment-là, il aura dicté une nouvelle valeur qui peut consolider la démocratie. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les familles parlementaires. Papa est parlementaire, maman est parlementaire, et les enfants sont parlementaires. C'est pas normal, ce ne sont pas des bonnes choses qui peuvent donner de la valeur à la démocratie congolaise, naissante ou pas, ou encore à cette refondation de l'État.
Or vous semblez comprendre cela en disant que lorsqu'on se trouve devant une situation des gens qui sont dans une même famille, mais qui ont mené la même lutte politique, cela ne peut pas déranger. Vous l'avez dit.
Mais justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un cas particulier. Le président lui-même, il est fils d'un père, n'est-ce pas? Il est fils de son père. Ils se sont battus dans un parti politique. On l'a vu sur le terrain. Voyez-vous? On ne l'a pas contesté parce qu'il est fils de Tshisekedi. Non. Voyez-vous? Parce qu'on l'a vu sur le terrain. C'est pourquoi nous disons qu'il faut mettre fin, en fait, à ce qu'on appelle les familles parlementaires ou les familles ministrables, où vous trouvez papa, maman et tous les autres sont ministres parce que, ainsi de suite. Je crois que la démocratie prendra de la valeur, n'est-ce pas? En écartant, en bouchant pratiquement ce que j'appelle la perversion éthique. C'est une perversion éthique qu'il faut écarté pratiquement, si on veut refonder l'État, si on veut regaillardir notre démocratie.
Merci, on va écouter aussi les auditeurs qui sont en train d'appeler. Hein, Maître Jean-Paul Omulyanga, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Aksanti Shengamungu Olivier, activiste du Forum des nationalistes depuis Bukavu dans la province du sud Kivu. Je pense que la nomination des élites dans le gouvernement ou derrière les entreprises publiques n'est pas du tout une oligarchie ou une kleptocratie. Ceci du fait que pour un pilotage réussi des institutions, le chef de l'État doit puiser les ressources dans tous les sens, y compris même dans les assemblées. Pour voir les choses dans un autre angle, la nomination des élus pourrait plutôt être comprise comme une promotion ou une augmentation des grades, et pourquoi pas une méritocratie, afin de concrétiser la vision du chef de l'État qui est celle de bâtir une république où la satisfaction des besoins des citoyens congolais constitue le cœur des gouvernants. À travers la nomination des élus, on peut aussi comprendre la volonté du chef de l'État de mettre en place une équipe qui respecte la représentativité parce que les députés sont les vrais représentants du peuple.
Jean-Paul Mulyanga.
Oui, merci beaucoup, monsieur Accent de Bukavu. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Donc, on ne parle pas de l'effet de nommer les députés comme ministre va conduire à l'oligarchie, à la kleptocratie, comme on l'a dit. Je crois que le dernier intervenant, il est venu, monsieur Joseph Kongolo. Il a très clairement dit que ce sont des antivaleurs, en fait. Donc, il n'y a pas une éthique politique. Et on commence à voir, par exemple, des familles, des parlementaires. Il y a une égalité. Par exemple, la Constitution, en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, fait de l'accessibilité aux charges, aux fonctions publiques, un droit pour tous les Congolais. Mais dans les interventions de mes prédécesseurs, pas M. Kanoudji que M. Joseph Pongolo, ils ont eu à démontrer, disons que surtout les derniers M. Joseph, que il y a des mécanismes qui promouvoient l'inégalité. Par exemple, pour être élu, il faut avoir de l'argent. Et puis, on commence à placer ses enfants, son épouse, les membres de sa famille. Et ainsi de suite, on pourra avoir une première génération, une deuxième génération, une troisième génération des mêmes personnes qui s'accaparent, parce qu'ils ne sont même pas 1% de la population congolaise, mais qui s'accaparent de la gestion de la chose publique, qui appartient à tout le reste public, à la chose de tous, ici au niveau du, disons, au niveau du pays. Hein, donc, voilà. C'est ça qui va nous mener à l'oligarchie.
Monsieur Jean-Paul Mulianga, comment vous avez réagi, vous, de la société civile, lorsque vous vous étiez rendu compte que la proposition des G13, les groupes des 13 personnalités, cette proposition-là avait été rejetée au Parlement? Qu'est-ce que vous avez fait pour, n'est-ce pas, dénoncer le comportement des parlementaires qui avaient rejeté cette proposition-là?
Oui, on avait fait les fédérés pour cette proposition. Et malheureusement, comme on a dit, j'ai quand même le premier intervenant, il est de l'Union Sacrée, mais il est sincère, il parle de l'éthique politique. Et il fait qu'il ne va pas dans la ligne droite des choses qui peuvent redresser le pays. Voilà, il les a dénoncées. Je crois que ça avait été dénoncé, même au niveau de l'Église, je crois que les pères évêques avaient proposé, disons, par exemple, qu'on ne puisse pas avoir des élus qui mettent comme suppléants leurs membres de famille. Mais les nombres, la force du nombre lors des votes joue. Et les mots d'ordre parfois viennent d'en haut, sont dans les familles, dans les mouvements politiques. Je suis d'accord avec lui qu'il faut supprimer dans la loi ces mouvements-là. Et voilà, les élus qui sont là-bas obéissent à un mot d'ordre qui vient, et voilà.
Merci.
Et on pose son président, allez, et ça passe.
Merci.
C'est pourquoi nous découvrons pour le moment, en l'arbitre suprême, qui est le chef de l'État.
Merci beaucoup, Jean-Michel Kanoudji. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis Isangi dans la province de la Tchopo.
Moi, c'est Dieu Boston Ndembola, militant de la Lutia, dans le territoire d'Isangi, province de la Tchopo. Je donne pleinement raison à ces organisations car dans notre pays, les parlementaires sont devenus comme les propriétaires de celui-ci. Donc si le président de la République a réellement besoin de faire participer tout le monde à la gestion de ce pays, il doit capitaliser cette recommandation et l'appliquer à tous les niveaux, c'est-à-dire les niveaux national et provincial. Surtout pour les entreprises publiques, que leurs animateurs soient totalement de la société civile ou du mouvement citoyen. Je vous remercie.
Jean-Michel Kanoudji.
Oui, je m'aligne un peu en faux sur certaines propositions parce que il ne faudrait pas dire que quand les animateurs viennent de la société civile, ils sont meilleurs gestionnaires. Les premières élections chaotiques que nous avons eues et toutes les élections chaotiques que nous avons dans ces pays, les présidents de la CENI viennent de la société civile. Nous devons changer l'homme congolais. Ce n'est pas d'où il viendrait. Mais c'est l'homme congolais qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, on décrit un homme politique, il est sanctionné pour malversation, pour détournement, pour non-respect, violation de la loi. Mais c'est la même population qui devrait encourager ceux qui l'ont sanctionné, qui font des marches sur la ville au nom de ressortissants d'eux ou au nom de telles familles politiques pour soutenir cette personne-là. Donc, d'où viendrait le dirigeant? Aujourd'hui, vous pouvez être scandalisé que c'est l'ancien président de la CENI qui est venu de la société civile qui devient aujourd'hui chef rebelle dans ce pays. Donc, vous ne pouvez pas me dire que c'est la société civile qui devrait gérer. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est la compétence, c'est l'intégrité, c'est les valeurs que porte la personne. Aux États-Unis, nous avons les familles Bush, père, fils et fils qui dirigent. Aujourd'hui, en Belgique, on a eu Louis Michel, on a eu le fils Michel qui a dirigé la Belgique. Ce n'a pas été empêché. Le président Tshisekedi a été combattant au sein de l'UDPS et il est monté crescendo jusqu'à arriver à devenir président du parti et à diriger. Moi, je vous dis que le problème, c'est d'abord l'homme congolais, que l'on doit placer là où il faut. Merci. Si cette compétence est, il est président du parti politique, il est député, mais que c'est lui qui doit diriger, qui doit être appelé à des hautes fonctions, on doit le lui donner. Et ne pas sanctionner les personnes parce qu'il est fils d'eux ou il est de la même famille politique d'eux. Nous devons amener
et
la
donc
compétence.
On ne peut pas l'interdire formellement par la loi.
Je vous donne un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, les normes que mon ami a voulu que l'on mette en place. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, parce qu'ils sont de la même région que le président de la République, ils ne peuvent pas prétendre à certains autres postes, bien qu'ils soient compétents ou bien qu'ils soient mieux positionnés, tout simplement parce qu'on a déjà le président de la République qui est ressortissant du Kassai, on ne peut pas avoir un Kassaïen ou autre. Donc ces personnes vont se voir aussi être victimisées. Donc moi je pense que, bien que nous devons placer des normes, mais nous devons laisser la compétence prendre les dessus, mais aussi avoir un contrôle. Nous ne pouvons pas avoir une personne qui n'a pas compétence, qui n'a aucune expérience, se retrouver directeur de cabinet du ministre parce qu'il est fils, il Merci. Est beau-frère. Merci. Nous devons mettre la compétence devant, nous devons mettre la méritocratie devant et l'éthique devant.
Merci Joseph Kongolo, vous allez se réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga, Kasaï Central.
Je suis William André, je vous appelle depuis Kananga, dans le Kasaï Central. Ces organisations de la société civile ont pleinement raison, dans la mesure où les charges et les responsabilités, voire les privilèges qu'offre l'État, doivent être ouvertes à tous, à tous les Congolais donc, et à toutes les Congolaises, sans cumul, selon l'ordre d'une fonction pour un Congolais ou pour une Congolaise. Ceci pourra favoriser la multiplication des emplois et faciliter ainsi l'éclosion des nouvelles compétences. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'une poignée de personnes puisse faire la ronde des institutions de la République en assumant l'une ou l'autre fonction au détriment de la grande majorité régorgeant assurément des compétences non exploitées. Je pense par ailleurs qu'il faille, au-delà de cette simple déclaration, qu'on propose une loi au Parlement interdisant tout cumul ou superposition des fonctions, en commençant par la révision de la loi électorale par exemple.
Oui, Joseph Kongolo.
Oui, bon, écoutez, je suis d'accord pour certaines choses que vous avez dites tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plaidoyer qui a été fait doit être un plaidoyer actif, voyez-vous, parce que vous savez que tout le mal est dénoncé dans les micros, dans les journaux, mais c'est pas suivi. Donc il faut que ce soit un plaidoyer actif à deux niveaux. Donc, vous avez un plaidoyer actif au niveau vertical, c'est-à-dire vers le sommet, et au niveau horizontal. C'est-à-dire que la population a besoin aussi, n'est-ce pas, d'avoir ses valeurs pour consolider notre démocratie. Elle a besoin de ça, de cette justice interne, n'est-ce pas, à la démocratie, qui veut effectivement que l'éthique ait quand même une place. C'est amoral de trouver une famille parlementaire. Ça veut dire un père qui a été soumis, n'est-ce pas, au vote général. Le fils n'a jamais été soumis au vote, n'est-ce pas? Il vient, il remplace son père parce que son père a été nommé par un ministre ou mandataire dans une entreprise. C'est le fils qui vient exercer ce travail. Vous savez, c'est amoral, en fait. Je ne sais pas comment les gens vont le voir. C'est amoral.
Joseph Kongolo,
sauf des cas exceptionnels.
Oui, vous êtes, je rappelle que vous êtes, Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Et vous avez, n'est-ce pas, préconisé la moralisation de la classe politique. Vous venez de dire ici qu'il faut, quand on fait les plaidoyers, il faut que ces plaidoyers soient actifs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il ne faut pas se limiter au niveau des déclarations. Oui. Il faut aller jusqu'à poser des actes.
Oui, il ne faut pas se limiter au niveau des déclarations. Il faut chercher des contacts avec les responsables visés, n'est-ce pas, par la déclaration, les rencontrer et faire le plaidoyer de manière beaucoup plus active. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que ça soit aussi horizontal. Ça, c'est vertical, c'est-à-dire qu'on voit le chef, on lui parle, on lui donne les bonnes raisons, n'est-ce pas, de sa déclaration. Et puis ensuite, on vient faire la sensibilisation générale au niveau de la population sur le plan horizontal. Donc tout le monde doit avoir les mêmes valeurs et nous pouvons avoir la même appréciation. Avoir les mêmes valeurs et la même appréciation, c'est ce qui fait grandir justement la démocratie. Donc nous ne pouvons pas être dans des divisions sur des valeurs.
Et la conclusion?
La conclusion, je demande tout simplement au président de la République de tendre l'oreille, n'est-ce pas, ces déclarations,
Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous voulons que la société civile, parce que c'est son travail, qu'elle fasse un plaidoyer actif au niveau de la population, des sensibilisations, des semaines de sensibilisation à ce niveau-là, pour que les gens qui sont tombés dans cette erreur, n'est-ce pas, se sentent lésés par l'opinion, donc une sanction sociale. Merci. Ça, c'est la première chose. Troisièmement, je pense aussi que d'autres institutions intermédiaires, telles que le Parlement, n'est-ce pas, et même les ministères, en un certain moment, devront aussi être touchés par cette sensibilisation pour que, dans les cabinets, parce que ça c'est encore au niveau, c'est pas des candidats, mais au niveau des cabinets, vous allez voir, demain après-demain, vous allez voir encore savoir quoi se répéter au niveau des cabinets. On va prendre des conseillers qui sont des oncles, des neveux, de ceux-là, peut-être sans expérience. Ils peuvent avoir de l'expérience, je suis d'accord, mais peut-être sans expérience, simplement parce que à cause de la proximité familiale, eh bien, on prend des gens dans des cabinets là où il y a des compétences qui traînent dans la rue.
Merci, maître Jean-Paul Moulianga, vous allez se conclure. Hein. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du bureau des liaisons de la CENCO avec les parlements. Vous ne devez pas vous limiter aux déclarations, il faut passer aux actes pour espérer, n'est-ce pas, moraliser la classe politique congolaise.
Oui, merci beaucoup. Je vous ai dit au début que notre bureau ne se limite pas aux déclarations, heureusement. Nous faisons beaucoup d'actions, celles qui ne sont pas très médiatisées. Mais je suis d'accord avec la dernière proposition de M. Joseph Kongolo, avec cette plaidoyer vertical et horizontal. Nous le faisons déjà. Nous le faisons. Et là, nous allons utiliser les parlementaires eux-mêmes. Bien sûr que l'équipe politique, on ne peut pas tout prévoir dans des lois. Mais il peut y avoir des éléments dans les règlements intérieurs même du Parlement, par exemple de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Chambre provinciale. Mais ce travail ne se fera pas par une seule institution. Je suis d'accord aussi avec lui. Et au niveau de l'État civil, nous avons ce que nous appelons la synergie pour les suivis et l'accompagnement parlementaire. Mais ça ne va pas se limiter aux organisations de la société civile parlementaire. C'est une question qui touche à la gouvernance même de notre pays. Donc, même les autres, même les organisations des femmes, les jeunes, donc tout le monde doit être impliqué et être ensemble dans ces grands plaidoyers à mener. Mais formellement, je pense qu'il a raison, on va aussi toucher nos instances. Nous, nous sommes un bureau de la CESCO, donc nous avons une façon de travailler. Nous ne pouvons pas engager l'institution. Nous allons nous référer à nos responsables au niveau du secrétariat général, comité permanent, c'est eux qui vont porter aussi pour l'institution
centrale. Merci.
Soyez au niveau des chefs d'État et des autres institutions du pays.
Merci. Jean-Michel Kalonji, votre conclusion aussi, hein, cadre de l'Union sacrée et coordonnateur de la dynamique 2020, Tshisekedi. Comment faut-il aujourd'hui moraliser la classe politique congolaise quand on sait que c'est une classe politique qui a, n'est-ce pas, pris l'habitude, n'est-ce pas, à entretenir ce genre de pratiques? Qu'est-ce que vous proposez pour arriver effectivement à moraliser cette classe politique?
Pour moraliser cette classe politique, il faudrait au départ que nous puissions changer les lois, parce que la moralisation de la classe politique par le recrutement qui doit se faire dans les partis politiques. Et que les partis politiques, comme j'ai proposé ici, nous devons obligatoirement suspendre cette histoire des regroupements politiques. Parce que nous nous retrouvons avec des mercenaires aux élections, des personnes qui s'approchent du parti politique parce que ce regroupement peut lui garantir qu'ils vont atteindre les seuils, où le regroupement recrute des personnes parce que ces personnes ont une certaine notoriété dans la population et ils peuvent amener des voix pour que ce regroupement-là atteigne le seuil électoral. Mais après, quelle est la moralité? Quel est le penchant de ces personnes que nous amenons au pouvoir? Ils n'ont jamais milité dans un parti, ils ne connaissent même pas l'idéo ou la philosophie de regroupement, du regroupement ou du parti politique. Donc, nous avons un problème au sommet de l'État. Moi, je pense que nous devons obliger que ça ne soit que des partis politiques, mais aussi augmenter le seuil de représentativité et le seuil électoral, passer de 1% à 5%. Nous aurons au final que 5 ou 10 partis politiques. Donc en ce moment-là, nous allons avoir des idées préconçues dans la gestion du parti. Aujourd'hui, nous ne savons même plus si c'est la gauche ou la droite qui est à la gestion. Nous sommes dans une union sacrée avec des partis de tous bords. Cela rend difficile la philosophie même de la gestion de l'État.
Merci. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir été, d'y participer. Maître Jean-Paul Omulianga, Monsieur Jean-Michel Kalonji et Monsieur Joseph Kongolo. Merci également à toute l'équipe qui était avec moi, Kéline Kouté, Alain Ngoy, avec la participation de Jonathan Fouanani, Clément Chimanga et Dervé Voka sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.